Le journal des sciences.
Et pour commencer cette semaine, la publication d'un nouveau scénario pour expliquer la forme de la comète Chury. Une forme, donc, cette comète, cette fameuse comète qui serait née d'une collision très violente entre deux fragments de comète dans un passé certainement plus récent que ce que l'on pouvait penser jusqu'à présent, Zoé.
Ce scénario publié ce lundi 5 mars dans la revue Nature Astronomy par une équipe internationale dirigée par le français Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, vient remettre en cause le scénario qui faisait jusqu'ici consensus largement, puisqu'il est statistiquement plus probable. Alors, en effet, la thèse communément admise jusqu'ici pour expliquer la forme si particulière dite bilobée de Chury, ou alors on dit canard de bain parfois quand on veut être un peu plus précis.
Ou cacahuète,
explorée donc par Rosetta et Philae, son atterrisseur, pendant 2 ans, était la suivante. Chury serait née de l'agglomération de 2 morceaux de comète qui se sont percutés à faible vitesse et se sont soudés. Un scénario tout en douceur, qui n'a pu se produire que dans la première phase du système solaire, c'est-à-dire il y a plus de 4 milliards d'années. C'était ça, donc, l'âge supposé de la comète Chury. Et c'était d'ailleurs à ce titre qu'elle intéressait beaucoup les chercheurs. Oui, mais restait une question de taille. Comment Chury a-t-elle pu survivre à peu près intacte pendant 4 milliards d'années, alors que les collisions sont légion dans la fameuse ceinture de Kuiper? Patrick Michel a donc tenté d'imaginer un autre scénario, bien plus violent, mais tout en gardant en tête que Chury est une comète très poreuse et très volatile.
C'est parti du fait que j'avais fait beaucoup de simulations numériques d'impact et de collisions entre astéroïdes, des collisions à haute vitesse, hein, c'est 5 km par seconde, la rencontre entre 2 astéroïdes, pour les comètes c'est plutôt de 1 km par seconde. Et j'avais déjà fait des simulations qui montraient que quand 2 corps se rencontrent à très haute vitesse, ils commencent par se pulvériser en petits fragments. Et en fait, ce qu'on a vu dans les simulations numériques, qui était une grande surprise à l'époque, c'est que ces fragments, même s'ils sont éjectés à haute vitesse, leur vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse entre eux, peut être suffisamment faible pour qu'ils sentent leur attraction et que ça les fasse se réaccumuler pour former des agrégats. Et effectivement, je trouvais des formes qui pourraient éventuellement s'accorder avec la forme de Chury. Finalement, ça montre qu'il y a un autre scénario pour faire rencontrer les corps lentement. Par contre, ce dont j'étais pas sûr, c'est est-ce que quand on applique ça à 2 comètes, l'énergie de l'impact est telle qu'on va chauffer le matériau et du coup, on va perdre les volatiles et voire même perdre la porosité parce qu'on va écraser tout. Donc c'était ça qu'on a voulu vérifier. Et donc quand on a fait nos simulations numériques de collision entre comètes, eh bien on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a très peu d'échauffement qui est produit aux vitesses standard entre comètes. Et donc on garde les volatiles, on garde aussi la porosité. Finalement, on avait respecté toutes les contraintes. Ça a 2 implications, que Chury n'a pas besoin, en termes de structure, d'être né il y a très longtemps. Donc on soulage le problème de la garder vivante pendant 4 milliards d'années. Et puis l'autre chose, c'est que la matière, elle reste primitive.
Voilà, ce scénario hein, de Patrick Michel, il suppose que Chury, sous sa forme actuelle, est donc beaucoup plus jeune que ce que l'on imaginait jusqu'à présent, et qu'elle serait surtout née très rapidement, en quelques heures à peine.
En quelques heures à peine, ces collisions, ça se passe dans un temps très court. Alors autant dire que ce scénario, quand Patrick Michel a commencé à le présenter, a, on peut le dire, un peu agacé, notamment les membres de l'équipe de la sonde Rosetta et de son atterrisseur Philae, inquiets en fait de voir la comète perdre peut-être son statut de témoin des premiers âges de notre système solaire. Patrick Michel a beaucoup rassuré, alors on l'a entendu sur ce point. Si Chury est jeune, sa matière, elle, reste primordiale. Quand j'ai demandé son avis sur ce scénario à Francis Rocard, responsable programme système solaire au CNES, qui a travaillé sur la mission Rosetta, il a insisté sur ce point et il reste, vous allez l'entendre, assez prudent sur ce nouveau scénario.
Ça remet partiellement en question le côté primordial de la comète, partiellement seulement, puisque il démontre via son modèle que l'échauffement qui a lieu pendant la collision n'est que très local et que l'essentiel de la comète n'est pas beaucoup échauffé. Et ça, c'est fondamental, puisque si la comète avait beaucoup chauffé, elle aurait perdu, en tous les cas, son oxygène, qui était une découverte tout à fait surprenante, et aurait même perdu son eau. Or, évidemment, il y a plein d'eau dans la comète Chury. Donc, c'est un modèle qui est un peu dérangeant, au sens où ça va à l'encontre du consensus actuel pour la formation de Chury. Je rappelle quand même que un des arguments forts du modèle antérieur, c'était d'avoir étudié l'empilement tel des pelures d'oignons des couches de stratification qui existent sur les 2 lobes de la comète Chury, et étudier si ces couches sont horizontales, et si elles sont horizontales dans la comète actuelle à 2 lobes, par rapport à une horizontalité en supposant les deux lobes séparés l'un de l'autre. Et en fait, un argument très fort, c'est qu'on s'est rendu compte que les couches en pelure d'oignon sont horizontales quand les deux lobes sont séparés l'un de l'autre. Et ça, ça pousse vers l'argument qui est de dire, donc il y a eu deux comètes qui se sont percutées à vitesse lente et qui se sont collées l'une à l'autre. Donc comment expliquer cette observation qui est relativement forte? Je trouve que le débat va être intéressant.
En bref, et dans l'espace toujours, SpaceX a réussi le 50e lancement de sa fusée Falcon 9.
La firme d'Elon Musk, après l'énorme succès, on peut le dire, du lancement de Falcon Heavy, a réalisé mardi le 50e lancement de sa fusée Falcon 9 pour transporter un satellite de télécommunication espagnol en orbite géostationnaire, donc à 36 000 km d'altitude. Il pèse 6 tonnes et pratiquement la taille d'un bus de ville. C'est le satellite géostationnaire le plus imposant jamais lancé par SpaceX. En revanche, pas de récupération de la fusée réutilisable pour ce lancement, puisque je rappelle que c'est la spécialité de Falcon 9 et à cause des mauvaises conditions météo.
Et la France va renforcer la surveillance des risques sanitaires dans le domaine des épidémies animales.
Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a signé vendredi avec le PDG de l'INRA et le directeur général de l'ANSES un accord issu des états généraux de l'alimentation et inspiré du concept One Health défendu par l'OMS depuis plusieurs années, qui vise à renforcer la surveillance sanitaire dans les domaines de la santé des végétaux, des animaux, la sécurité sanitaire des aliments. 60% des maladies humaines sont d'origine animale, rappelle cet accord. Deux plateformes d'épidémio-surveillance en santé végétale et en sécurité de la chaîne alimentaire vont être mises en place. Et la plateforme en santé animale créée en 2011, l'ESA, qui avait notamment permis la meilleure gestion de la grippe aviaire, elle va être consolidée.
Et puis, eh bien, si vous aimez bien les arbres et qu'il y a des frênes près de chez vous, vous pouvez bien participer à un grand programme de science participative pour repérer les frênes sains, Zoé.
Les promeneurs, les randonneurs, les amoureux de la nature en forêt, mais aussi, et c'est important de le dire, en ville, vont être sollicités d'ici la fin de l'année par une application dans cette lutte drastique contre la maladie du frêne, la calarose, maladie qui provoque dessèchement des branches du frêne dû à un champignon qui est originaire d'Asie, qui rentre par les feuilles et qui nécrose le tronc. Cette maladie a été décrite en Europe pour la première fois dans les années 90 et elle est arrivée en France en 2008 seulement, mais elle est vraiment en train de décimer les frênes en France. Seuls 3% d'entre eux seraient résistants à cette maladie et le but évidemment c'est de les identifier pour mener des croisements génétiques et renforcer des futures souches et tenter donc de sauver cette population. C'est ce que m'expliquait hier Arnaud Dovkiv de l'unité INRA Biologie intégrée pour la valorisation et la diversité des arbres et de la forêt.
Nous, notre objectif, c'est donc de répondre à certaines questions préliminaires qui sont: existe-t-il une variabilité génétique pour la résistance à la calarose chez le frêne? Si oui, est-ce que cette résistance est transmissible et à quel degré à la génération suivante? L'approche participative, elle se justifie, je dirais déjà pour des raisons morales. Quand on commence à fermer certaines forêts, comme le fait l'ONF dans le Nord, interdire l'accès aux randonneurs, parce que les frênes deviennent dangereux, parce qu'ils peuvent tomber, donc la science participative, c'est déjà, avant tout, un moyen d'expliquer ce qui se passe. Et fréquemment, quand je fais des conférences sur la calarose, j'ai des sollicitations, pas forcément du grand public, mais de personnes qui sont déjà sensibilisées à la nature, qui me disent, dans tel site, j'ai repéré un frêne qui a l'air intéressant, puis il a pas l'air d'avoir de calarose et tous ses voisins sont malades, parce que c'est bien ça la définition d'un frêne résistant. Et le problème, c'est que j'ai pas le réceptacle pour ça. Donc il y a un besoin qui vient du terrain, en fait, d'avoir un réceptacle pour collecter cette information sur les frênes résistants. Après ça, le traitement de la calarose en milieu forestier est relativement bien fait. Mais qu'en revanche, alors qu'on trouve du frêne partout ailleurs, dans les paysages ouverts, à la campagne, en ville, et bien dans ces milieux-là, il y a un déficit à la fois d'information et de réaction. Donc l'idée, c'est via cette application, et bien de faire en sorte que les acteurs locaux de milieux non forestiers puissent aussi participer au traitement de la problématique calarose du frêne.
En bref, il n'y aurait pas deux formes de diabète, mais cinq, Zoé.
C'est ce qu'affirment des chercheurs suédois au terme d'une très très vaste enquête sur plus de 10 000 diabétiques dans un article publié cette semaine. Alors jusqu'ici, je le rappelle, on considère qu'il y a deux groupes, deux types de diabète. Le diabète de type 1, maladie auto-immune découverte chez des patients jeunes, qui représente 10% des cas, et celui de type 2, qui touche un peu tous les autres cas de diabète. Mais les chercheurs suédois proposent de distinguer au sein même de ce diabète de type 2 quatre catégories, deux formes sévères, un diabète insulino-dépendant sévère, où les patients manquent d'insuline qui apparaît tôt, un diabète insulino-résistant sévère lui aussi lié au surpoids et où l'insuline répond mal, enfin en tout cas on répond mal à l'insuline, et deux autres formes beaucoup plus bénignes liées l'une au surpoids pour la première fois et à l'âge pour la deuxième.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, les tatouages ne sont pas indélébiles. Voilà qui va faire plaisir à ma mère.
Mais oui, c'est une info passionnante, alors qui n'a pas grand intérêt, à part pour votre mère Nicolas, ou pour développer des nouvelles méthodes un peu plus indolores de détatouage, mais quand même assez fascinante. Pourquoi ? Parce que on a toujours pensé que les tatouages, eh bien, teintaient les cellules du derme de la peau, les fibroblastes, et qu'une fois qu'ils étaient là, ils ne bougeaient plus. D'où la nécessité d'ailleurs de brûler ces cellules quand on veut se détatouer, n'est-ce pas Nicolas ? Je sais que vous n'y pensez pas, mais peut-être un jour, qui sait ?
Hors de question.
Voilà, or on découvre que c'est en fait les macrophages de la peau, des cellules immunitaires spécialisées donc dans le derme, qui engloutissent le pigment du tatouage, comme ils le feraient normalement avec un agent pathogène envahisseur ou un morceau de cellules mourantes. C'est leur job, oui, mais ces cellules, eh bien, elles ne cessent de se renouveler, elles meurent. Alors comment donc un tatouage peut-il rester en place ? Grande question auxquelles cette étude apporte une réponse. Étude qui a programmé des souris génétiquement modifiées avec des cellules qui mouraient très vite. Et malgré la mort programmée de ces cellules macrophages, l'apparence du tatouage ne change pas. L'équipe a donc conclu que les macrophages morts libèrent le pigment dans la zone qui les environne et qu'au cours des semaines suivantes, c'est la cellule suivante qui naît qui le récupère. Donc en fait, ce tatouage, il bouge à l'intérieur même de vous, Nicolas.